France Culture.
France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Après leur manifestation hier à Paris, des milliers de médecins s'exilent pour quelques jours à Bruxelles, une façon de ne pas être réquisitionnés alors qu'ils sont en grève. La gauche unie, mais sans LFI pour décrocher la mairie de Paris. Selon deux sondages, la liste d'union menée par le socialiste Emmanuel Grégoire arriverait en tête du premier tour des municipales le 15 mars, devant la candidate de droite, Rachida Dati. Deux semaines de manifestation en Iran, toujours privé d'internet, le régime menace de durcir encore la répression. Et puis, entre espoir et inquiétude, la communauté vénézuélienne des États-Unis s'interroge sur l'avenir politique du pays, alors que les Américains veulent prendre le contrôle du commerce du pétrole. Après leur grande manifestation d'hier à Paris, nouvelle opération aujourd'hui des médecins libéraux en grève. 2500 spécialistes, chirurgiens, anesthésistes et gynécologues obstétriciens, indispensables dans les blocs opératoires, partent ce matin à Bruxelles. Un exil, entre guillemets, de quelques jours pour symboliser, selon eux, le chemin que prennent de plus en plus de professionnels qui peinent à travailler en France, mais aussi paralyser le système de soins libéral, puisqu'ils ne pourront pas être réquisitionnés par les préfets, Tara Schlegel.
S'ils sont à l'étranger, les médecins libéraux ne peuvent pas lire le courrier qui les convoque et ils échappent aux très fortes amendes, plus de 3 000 euros prévues s'ils n'assurent pas la continuité des soins. Ce départ doit aussi montrer une France dont les hôpitaux publics sont noyés de patients. Le gynécologue Bertrand de Rochambeau co-préside Avenir Spé Le Bloc, syndicat qui depuis l'automne organise l'exil à Bruxelles. 2500 praticiens sont déjà mobilisés.
Les collègues s'inscrivent, payent leur transport, le séjour à l'hôtel. Et donc, on a programmé les choses, prévenu les patientes en amont, puisqu'on organise ça depuis l'automne. Et donc, les patientes qui vont accoucher à cette période, on les recevra, on s'assure qu'elles n'accouchent pas dans la minute. Et à ce moment-là, on les dirige par un service organisé à la maternité publique. Il faut que l'État s'habitue s'ils veulent tuer la médecine libérale, que c'est comme ça que demain, ça va fonctionner.
Il y a un précédent qui encourage ce mode d'action, poursuit le docteur de Rochambeau. C'était en 2004 pour des raisons similaires.
Déjà, les tarifs à l'époque n'augmentaient pas. Et les chirurgiens ont monté l'exil à Londres. Et Jacques Chirac a dit « Stop, les chirurgiens ne partiront pas, on va leur donner ce qu'ils demandent ». Mais à l'époque, le président de la République en personne avait pris la décision de céder et donc ça a été un franc succès.
Le bras de fer mené à Bruxelles doit s'achever jeudi soir.
Pas de surprise en commission des finances à l'Assemblée. Les députés ont rejeté hier le budget de l'État. 28 heures de discussion n'ont pas permis de trouver le chemin d'un compromis entre le gouvernement et le PS. Le texte doit arriver mardi dans l'hémicycle. C'est la plus large union de la gauche de l'histoire des municipales à Paris. Le candidat socialiste Emmanuel Grégoire multiplie les ralliements en sa faveur dès le premier tour. Les écologistes et les communistes en décembre. Et depuis cette semaine, l'ancienne insoumise et députée de l'après, Danielle Simonet, ainsi que la figure du nouveau Front populaire, Lucie Castet. Pour sceller l'union, ils ont tous ensemble parcouru un marché parisien hier, rebelote ce matin. Et ils ont rendez-vous mercredi pour le premier grand meeting unitaire de la campagne. Une gauche unie, mais toujours sans la France insoumise, une stratégie perçue comme la meilleure à gauche face à la candidature de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Adrien Toffolé.
Il faut que les sondages nous placent le plus possible devant Dati, détaille un membre de la campagne d'Emmanuel Grégoire. Et sans large rassemblement, professe-t-il, c'est Dati qui sera maire. L'union des socialistes, communistes et écologistes dès le premier tour, actée en décembre dernier, certes historique, n'était pas suffisante. Il fallait donc un élargissement de la majorité sortante. Et c'est précisément ce qu'incarne le ralliement de l'ancienne cadre insoumise Danielle Simonet, elle qui était jusqu'à aujourd'hui la principale adversaire à gauche d'Anne Hidalgo dans la capitale. On a toujours des désaccords, mais on défend une même idée de Paris contre Rachida Dati, justifie une proche du candidat socialiste. Simonet, c'est une gouaille et une présence remarquable, analyse par ailleurs un stratège écologiste parisien, une militante de terrain très appréciée et implantée dans les quartiers populaires sur lesquels lorgne la France insoumise. Quoi de mieux donc qu'une alliance avec celle qui a été purgée du mouvement lors des législatives de 2024. Elle est la plus grande rivale de Sophia Chikirou, la chef de file des insoumis à Paris. L'arrivée de Lucie Castet en position éligible possible vient parachever l'œuvre d'Union avec son étiquette d'ancienne candidate à Matignon de toute la gauche, y compris LFI. Et même si elle, contrairement à Emmanuel Grégoire, ne ferme pas la porte à une alliance avec les Insoumis au second tour, dans les rangs socialistes, l'objectif de ces ralliements est limpide, isoler ou du moins affaiblir la candidature de Sophia Chikirou, rassembler le plus large possible pour qu'elle ne soit pas présente au second tour et bénéficier d'un vote utile des Insoumis, indispensable pour éviter une victoire de la droite.
Et selon deux enquêtes IFOP et Érable effectuées après le ralliement de Lucie Castet, cette liste d'Union de la gauche sans LFI arriverait en tête du premier tour des municipales à Paris devant Rachida Dati. France Culture, 9h05. Les États-Unis sont prêts à aider l'Iran qui aspire à la liberté comme peut-être jamais auparavant. Déclaration hier soir de Donald Trump. Ces derniers jours, le président américain a agité plusieurs fois l'hypothèse d'une intervention américaine en soutien des protestataires. Selon des vidéos vérifiées par l'agence Reuters, de nouvelles manifestations contre le pouvoir ont eu lieu hier soir, mais les gardiens de la révolution préviennent. La sécurité du pays et les acquis de la révolution islamique de 1979 sont des lignes rouges pour les manifestants. Et alors que l'Iran est coupé du monde depuis la suppression des accès à Internet, la principale ONG qui documente ces événements estime que le régime est passé au tout répressif. Étienne Monin.
Human Rights Activist in Iran est sans doute la meilleure vigie pour suivre ce qui se passe dans le huis clos actuel. Elle explique que le mouvement social est parti des zones tribales frontalières de l'Irak pendant une dizaine de jours avant de toucher les grandes villes dans pratiquement tout le pays. Le carburant pour les manifestants a d'abord été le désespoir économique, puis la révolte contre la répression massive décidée par le régime. D'après l'ONG qui est maintenant basée aux Pays-Bas et à Washington, il n'a jamais été question d'entendre les demandes des Iraniens, malgré les discours conciliants du président dans les premiers jours. Skylar Thompson est la numéro 2 de Human Rights Activist in Iran.
Ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. C'est évident quand on regarde le nombre d'arrestations, les confessions extorquées, le nombre de personnes qui ont été tuées, le nombre de blessés. Les vidéos qu'on a pu vérifier dans les hôpitaux montrent que la mobilisation augmente, mais que la répression est systématique contre les gens qui vont manifester dans les rues.
D'après l'ONG, plus de 2300 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles plus de 160 mineurs dont on est sans nouvelles. Des dizaines de confessions forcées ont aussi été diffusées à la télévision.
Les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes annoncent ce matin, après plusieurs jours d'affrontements meurtriers contre les forces gouvernementales, l'évacuation de leurs combattants des deux quartiers où ils étaient retranchés à Alep. Ces affrontements ont braqué les projecteurs sur l'une des principales lignes de fracture en Syrie. La promesse du président intérimaire Ahmed El-Shara de réunifier le pays après 14 ans de guerre civile se heurte aux réticences des Kurdes à se placer sous l'autorité d'un gouvernement dirigé par des islamistes. Une semaine après la capture de Nicolas Maduro au Venezuela, la diaspora vénézuélienne aux États-Unis, 900 000 personnes, s'interroge sur l'avenir politique du pays où les Américains entendent, vous le savez, prendre le contrôle du commerce du pétrole. En Floride, où la communauté vénézuélienne est importante, les opposants au pouvoir se projettent entre espoir et incertitude. Sandrine Etoa-Andegue.
À l'instar de Carlos, un comptable de 45 ans qui s'est exilé en 2018 à Miami.
Tata, je t'appelle plus tard, je suis en interview.
Tous les jours, il essaie de joindre ses proches restés au Venezuela.
Ma famille là-bas me dit que les chavistes au pouvoir sentent bien qu'ils sont en train de perdre la bataille. Bien sûr, je suis frustré qu'à la tête du pays, il y ait toujours
Delcy, Jorge, Diosdado, Padrino,
des membres du régime actuel. Mais vous allez voir, ils vont se battre entre eux. C'est une bombe à retardement qui va bientôt exploser. Quant à Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, qu'on a connue si féroce, maintenant c'est la marionnette de Trump. Elle lui donne du « oui Trump », « d'accord Trump ». Il a ce pouvoir-là.
Sur le plan diplomatique, Carlos salue des avancées.
J'ai entendu que des prisonniers politiques avaient été libérés de prison et puis j'ai vu la vidéo de cette délégation américaine qui est arrivée à Caracas, où Trump envisage de remettre une ambassade. Ce sont des premiers pas.
Conclut Carlos en disparaissant sourire aux lèvres dans la nuit de Miami.
Sandrine Etohandek, notre envoyée spéciale à Miami. Hier, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement le Venezuela en raison d'une situation sécuritaire jugée instable. La mort de Bob Weir, le guitariste et fondateur du célèbre groupe de rock américain Grateful Dead, avait 78 ans. Le temps, aujourd'hui pour terminer, gris au nord avec une nouvelle perturbation pluvieuse venue de l'ouest, plus lumineux au sud. Les températures cet après-midi, 0 à 4 degrés sur le Grand Est, 10 à 14 sur la façade ouest et en bordure de Méditerranée, 3 à 9 sur le reste du pays.